18h, Stanislas Vazak, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Emmanuel Macron s'invite dans la polémique suscitée par Sanofi. Le futur vaccin contre la Covid-19 doit être extrait des lois du marché, affirme le président. L'analyse de Stéphane Robert dans un instant. 18 milliards d'euros pour relancer le tourisme. En présentant son plan, Édouard Philippe a promis aux Français qu'ils pourraient partir en vacances cet été. Les explications d'Anne-Laure Jumet. Plus des deux tiers des marins du Charles de Gaulle ont été touchés par le coronavirus. Le service de santé des armées vient de publier une enquête sur la contamination du porte-avions. Nous ferons le point avec Éric Biégala. L'ambassade de France à Caracas, mise en quarantaine par les autorités vénézuéliennes. Paris a convoqué l'ambassadeur du Venezuela pour signifier sa colère. Les précisions d'Omar Waman. Un grand laboratoire pharmaceutique français peut-il se permettre de privilégier un client étranger? Oui, si l'on en croit le directeur général de Sanofi. Paul Hudson a créé la polémique hier soir en affirmant que son groupe distribuerait d'abord aux États-Unis un éventuel vaccin contre la Covid-19. Argument invoqué, les Américains financent les recherches. Aujourd'hui, le président de Sanofi France, Olivier Bogillot, s'est bien gardé de démentir Paul Hudson. Il a même appelé l'Union européenne à être, je cite, aussi efficace que les États-Unis dans la mise à disposition du vaccin. L'attitude de Sanofi scandalise la classe politique française, mais aussi des ONG comme Oxfam. Stéphane Robert, la polémique a pris une telle ampleur qu'Emmanuel Macron a fait part de son émotion.
Emmanuel Macron s'est ému, ont expliqué ses conseillers à l'Élysée des déclarations du directeur général de Sanofi. Au-delà de son émotion, Emmanuel Macron fait savoir qu'il est nécessaire, selon lui, que ce vaccin soit un bien public mondial, extrait des lois du marché. Ce n'est pas la première déclaration que le président français fait en ce sens. Le 12 mars dernier déjà, juste avant de décider de confiner tous les Français, il avait fait un discours qui avait surpris, expliquant déjà que des biens et des services devaient être extraits des lois du marché. Et puis, il avait plaidé lors d'une visioconférence avec l'OMS le 24 avril pour qu'un futur vaccin, quand il sera mis au point, soit un bien public et mondial. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui s'est ému et a fait part de son désaccord avec Paul Hudson. Le Premier ministre Édouard Philippe également, déclarant tout à l'heure qu'un égal accès de tous au vaccin n'est pas négociable. Et puis la Commission européenne a fait savoir qu'un vaccin devait être, selon elle, un bien équitable et universel. On perçoit bien à travers la déclaration du directeur général de Sanofi et les réactions qu'elle suscite la dimension politique du problème soulevé. Alors que l'essentiel des réponses qui ont permis d'endiguer la pandémie de coronavirus ont été apportées par les États dans un cadre national, que l'État-providence est réapparu comme un outil efficace, on a là un groupe pharmaceutique qui prétend, comme avant, s'affranchir de toute frontière, se vendre au plus offrant et qui démontre une nouvelle fois le peu de puissance du politique face à un pouvoir économique mondialisé. Quelle sera dès lors la réponse des chefs d'État, la réponse du politique? Pour l'instant, c'est l'émotion et la récrimination. Au-delà de ça, Emmanuel Macron fait savoir qu'il s'entretiendra avec un haut responsable de Sanofi la semaine prochaine. Rien de plus pour le moment.
Stéphane Robert, merci. Alors, cette préférence américaine exprimée par le directeur général de Sanofi alimente le débat sur la souveraineté sanitaire des pays européens. Je vous propose d'écouter l'avis de Véronique Trier-Lenoir, députée européenne de La République En Marche. Cancérologue à Lyon, Véronique Trier-Lenoir est spécialiste des questions de santé pour le groupe Renew. Elle plaide en faveur d'une souveraineté européenne en matière de vaccins et de médicaments.
Ce qu'il ne faut quand même pas oublier en matière de recherche, c'est que l'investissement de départ, il est fait avec de l'argent public dans des organismes majoritairement publics que sont les laboratoires de recherche, INSEM, CNRS, et les universités et les hôpitaux. Or, l'investissement public de départ, il n'a jamais de retour puisque les médicaments sont ensuite commercialisés par les industriels et qu'on repaye avec le budget de la sécurité sociale des produits dans lesquels on a déjà investi au départ. Donc là, il y a déjà une anomalie. Donc, il faudrait une meilleure organisation des négociations sur les prix et le remboursement. Et puis, le problème qui va se poser, alors là, très sérieusement, c'est celui de la production de ces vaccins. On a beaucoup confié à des pays hors Europe le soin de fabriquer les substances actives. Il y a une urgence à s'organiser collectivement pour être sûr qu'on aura les lieux de production qui permettront de vacciner sur le territoire européen.
L'eurodéputée Véronique Trier-Lenoir répondait à Louise Baudet. Les Français pourront partir en vacances cet été, mais en France. Édouard Philippe s'est voulu rassurant aujourd'hui en présentant son plan de relance du tourisme. Le Premier ministre parle d'un plan massif qu'il chiffre à 18 milliards d'euros. Avec vous Anne-Laure Jumet, voyons le détail des mesures annoncées ce matin.
L'urgence pour le gouvernement, c'est d'abord de poursuivre et d'amplifier les aides existantes. La possibilité de recourir au chômage partiel est ainsi prolongée au moins jusque fin septembre et dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, c'est-à-dire une prise en charge du salaire par l'État à hauteur de 84%. Le fonds de solidarité pour les petites entreprises est lui ouvert jusqu'à la fin de l'année. L'aide pourra aller jusqu'à 10 000 euros. Pour ce qui est des prêts garantis par l'État, le plafond est relevé et il y aura des allègements et des exonérations de charges pour un montant total de 2 milliards. Comme il faut préparer l'avenir, ce plan comporte également un volet investissement piloté par la BPI et la Caisse des dépôts, 1,3 milliard d'euros qui permettront, avec l'apport du privé, de porter l'enveloppe totale à près de 7 milliards. Enfin, pour favoriser les réservations cet été, les grandes fédérations du secteur s'engagent à rembourser les clients si les départs en vacances n'étaient finalement pas possibles. Et puis le plafond journalier d'utilisation des tickets restaurants est doublé, 38 euros contre 19 aujourd'hui, avec possibilité de les utiliser le week-end afin qu'ils puissent être dépensés dans les restaurants au moment de leur réouverture.
Anne-Laure Jumet, merci. Cette réouverture des cafés et des restaurants pourrait intervenir dès le 2 juin pour les départements classés en zone verte. C'est en tout cas l'objectif affiché par Édouard Philippe. Près de 70% des marins et du personnel de bord du porte-avions Charles de Gaulle ont été contaminés par le coronavirus. Le ministère de la Défense vient de publier les résultats de l'enquête conduite par le service de santé des armées. La contamination a eu lieu entre la fin février et le début avril lors de la dernière mission du vaisseau amiral de la marine française. Éric Biégala, cette étude permet de dresser une sorte de panorama des symptômes de la Covid-19.
Sur les 1568 marins du Charles de Gaulle, 1064 ont été diagnostiqués positifs au Covid-19, soit 67,9% exactement. Bien sûr, la population d'un porte-avions n'est pas forcément représentative, elle est beaucoup plus masculine et surtout beaucoup plus jeune que la moyenne française. N'empêche, les chiffres sont intéressants. Toutes les personnes ayant été exposées au risque, c'est-à-dire tout le monde à bord, ayant été testées. Il y a d'abord les personnels contaminés qui n'ont montré aucun symptôme, 13%, et ceux ayant montré des symptômes autres que ceux habituels. Habituellement relevé pour le Covid-19, 8%, soit en tout plus de 20% de malades dont on ne pouvait dire avant le test médical PCR, ce qui était le cas durant le périple du porte-avions en mission, dont on ne pouvait dire s'ils étaient atteints par le Covid-19 ou s'ils étaient contagieux. Il y a ensuite les facteurs manifestement aggravants de la maladie révélés par cette étude. Les personnes en surpoids et les plus âgées ont eu respectivement 3,5 et 6 fois plus de chances de développer une forme grave de la maladie, c'est-à-dire ayant nécessité une assistance respiratoire. Enfin, une confirmation, le tabagisme actif semble freiner ce risque de contagion. Le freiner mais pas le supprimer, il y a quand même eu 271 marins fumeurs qui ont développé la maladie à bord du Charles de Gaulle.
Éric Biégala. Il y a encore en France 21 000 personnes hospitalisées pour le coronavirus. Parmi ces malades, un peu plus de 2400 sont en réanimation. Ils étaient 7 000 le 10 avril, car depuis 5 semaines, il y a chaque jour davantage de sorties que d'arrivées et les services de rééducation sont de plus en plus sollicités. Le professeur Jean Paysan est le directeur médical de l'Institut régional de réadaptation de Nancy.
Dans la toute première phase, ils avaient des malades dans leur réanimation et dans leur service de médecine. Ben pour mettre les Covid qui arrivaient, il a fallu vider une partie de leur service et il fallait bien les mettre quelque part. Donc nous, on a vidé nos services pour faire de la place pour que les réanimations puissent se créer, quoi. Donc ça, c'était une première étape. Ça, si vous voulez, c'était début mars, pendant les 15 premiers jours de la vague. Ça fait quand même un mois, 6 semaines, qu'on prend des malades qui sortent des réanimations, qui sortent des services de médecine, qui n'ont plus besoin d'être dans les secteurs très aigus et qui viennent faire leur éducation. Donc on prend ça progressivement. Et on va continuer à en prendre, puisqu'ils ont encore eu des malades qui sont rentrés, et on espère qu'il n'y en aura pas encore avec une nouvelle vague ou quoi que ce soit. Mais on va avoir toute cette cohorte des patients Covid. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos structures de rééducation et d'adaptation vont avoir à reprendre leurs malades habituels. Les gros polytraumatisés, les gros AVC, les amputés, tout le classique. Et en plus, on va avoir la cohorte Covid à mener simultanément. Donc là, on a de grosses réorganisations qui ont été faites, mais on va avoir un problème de bras, de locaux, du même ordre que celui qui a été décrit en réanimation de façon précoce. C'est ça qui va poser des soucis, d'autant plus qu'il y a le facteur démultiplication du temps qui est inhérent même à la récupération, en rééducation, en adaptation.
Le professeur Jean Paysan répondait à Aurélie Kiefer. Aurélie Kiefer qui signe sur franceculture.fr un article sur la lente rééducation des patients Covid-19. Sur le plan politique, la gauche prépare déjà l'après-coronavirus, en témoigne cette tribune, publiée ce matin sur plusieurs sites d'information. Parmi les signataires, le socialiste Olivier Faure, les écologistes Yannick Jadot et Julien Bayou, le communiste Pierre Laurent et l'économiste Thomas Piketty. En revanche, les insoumis n'en sont pas. Pierre Neveu, l'objectif de cette tribune est de donner à la gauche un projet commun de société.
L'histoire de l'union de la gauche, de l'union des gauches, est un éternel recommencement. L'idée d'une plateforme commune a germé la veille des élections municipales sous l'impulsion de Christian Paul, ancien député PS de la Nièvre. L'idée a pris corps avec la percée des Verts et la résistance des socialistes le 15 mars dernier. La crise du coronavirus n'a fait que renforcer le désir de rassembler des cultures politiques de gauche, partis traditionnels, syndicats et ONG. La tribune intitulée « Au cœur de la crise, construisons l'avenir » propose de tourner la page du productivisme en engageant une transition économique et sociale. Pour sortir de la crise, la gauche dessine donc un programme autour de thèmes fédérateurs, emploi, formation, salaire, protection sociale, retraite, relocalisation, mobilité et bien sûr hôpitaux et EHPAD. La pandémie n'efface pas non plus la question climatique, elle sacralise la conversion écologique. Avec pour financer cet État-providence, le grand marqueur de la gauche, qu'est l'ISF, l'impôt sur la fortune, auquel s'ajoutera une contribution anti-crise des plus riches. Il y a une créativité politique forte en ce moment, souligne Christian Paul, des initiatives qui ont vocation à s'étendre, une accélération évidente liée à la crise, qui se matérialisera avec l'organisation d'une convention du monde commun à l'automne, une sorte d'université de la gauche du monde d'après.
Pierre Neveu, merci. Petite révolution dans la presse quotidienne. Libération va retrouver son indépendance. Son propriétaire actuel, le groupe Altis, a décidé de se séparer du quotidien. Libé serait entre guillemets transféré dans une société à but non lucratif. Un dispositif inédit pour un journal en France. En pleine crise du coronavirus, le ton monte entre la France et le Venezuela. Le Quai d'Orsay a convoqué l'ambassadeur vénézuélien à Paris. Le ministère français des Affaires étrangères entendait protester contre le sort réservé aux diplomates français à Caracas. Rappelons que la France fait partie des pays qui ont reconnu la légitimité politique de Juan Guaido, le principal opposant au président vénézuélien Nicolas Maduro. L'analyse d'Omar Waman.
Tout a commencé par la coupure de l'électricité le 3 mai dernier, du gaz et de l'eau peu après dans une résidence déjà cernée depuis le début du mois par des barrages filtrants érigés par les forces de sécurité vénézuéliennes, mais équipés d'un générateur alimenté au gazole d'une autonomie de plusieurs semaines. Des actes d'hostilité qui portent la signature du régime de Nicolas Maduro qui dénonce depuis longtemps la proximité de l'ambassadeur français Romain Nadal avec son ennemi juré, le chef de l'opposition Juan Guaido, que Paris a reconnu comme président en charge du Venezuela, à l'instar de 60 autres pays. Le Quai d'Orsay a convoqué lundi et mercredi l'ambassadeur vénézuélien à Paris avant de condamner des mesures venant à porter atteinte au fonctionnement normal de la représentation française. D'autres résidences diplomatiques de Caracas sont dans la même situation, celle de l'Autriche, d'Afrique du Sud et bien sûr celle des États-Unis, déserte depuis le départ de son ambassadeur il y a un an.
Omar Waman, merci. Donald Trump durcit encore le ton face à la Chine. Le président américain menace désormais de rompre toute relation avec Pékin. Il ne veut plus parler au président chinois Xi Jinping. Donald Trump s'exprimait dans un entretien à la chaîne Fox Business. Depuis plusieurs semaines, le locataire de la Maison Blanche pointe la responsabilité de la Chine dans le lourd bilan de la pandémie de coronavirus. Près de 300 000 morts dans le monde, dont environ 85 000 rien qu'aux États-Unis. Le temps demain ensoleillé sur la moitié nord et plus instable au sud. Le ciel sera orageux des Pyrénées aux Alpes en passant par le Massif central. Les températures minimales restent fraîches pour la saison au nord, entre 2 et 8 degrés. Au sud, il fera demain matin de 7 à 16 degrés. Quant aux maximales, elles seront comprises entre 12 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetot.